With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
Il a démarré comme un coup de fusil.
Ah oui, je suis chaud. Maxime, que vous venez d'entendre, c'est un vieux disque un peu rayé. Un bon vieux vinyle qui a pris la poussière, mais que tu prends parfois le temps d'écouter pour te rappeler les bons moments. Le problème, c'est que ça tourne vite en boucle. Max vit sur deux hits, grosso modo. Son premier hit, à un moment, ça va, je veux dire, et son plus grand tube... Et je vais te dire un truc.
Tu veux que je te dise ?
Ou tu veux que je te dise ? Ou non, je vais te dire un truc.
Moi, je vais te dire un truc.
Ouais, je vais te dire un truc. Et ce vieux tube, donc, il l'a déjà entonné 8 fois depuis 11h ce matin. Et sachez qu'on enregistre l'émission à 14h30. Il ne s'en lasse pas, contrairement à certains membres de la rédaction. Et à mon avis, on y aura droit avant la fin du podcast. Faites bien attention si vous entendez « je vais dire un truc ». Mais parfois, au détour d'une remarque, un éclair de génie nous rappelle à quel point il devait être fantastique au temps de sa jeunesse. Ce matin, alors qu'il ruminait encore et toujours sur Neymar, les millions du Qatar ou je ne sais quelle obsession, il a décidé de s'en prendre au cinéma français qui n'avait pourtant rien demandé à personne, le pauvre. Et là, j'ai retrouvé le Maxime fringant, son verbe haut, son esprit ciselé. Bah, Astérix, c'est comme le PSG, tu mets les stars avant de faire le film. Là, j'ai retrouvé le Max qui m'a accueilli ici à Eurosport, 20 ans de moins, le ventre sculpté dans le béton, le cheveu dense. Ah ouais. Cette punchline m'a rappelé le Max des grandes années et elle nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri dans la demi-heure qui vient de retrouver le grand Dupuis. Même si, je vais être tout à fait honnête, j'en doute fort.
Ouais, non, bah alors, déjà, je le dis là mais ça compte pas. Tu veux que je te dise et je vais te dire un truc. Je parie que je ne dirai pas dans la demi-heure qui vient. Parce que dans l'émission, c'est... Non, mais c'est vrai, je pense que je ne le dis pas.
Ok.
Bizarrement.
Si tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un pari.
Ouais, alors attends, je vais me calmer avec les paris. Je me souviens d'un souvenir douloureux. Ouais. Parce que ce que je dis souvent et trop, c'est le fameux « voilà ». Ah, ça, oui, je me rends compte que « voilà ». Mmh. Mais ça, c'est pas dans le mode émission, mais je sais pas, je parie quoi. Allez, un repas avec un internaute qui l'aura remarqué que je l'aurais tiré au sort.
Ok, d'accord. Oh putain. Ouais, bah tu peux tomber sur des énergumènes quand même. Hein.
C'est le risque. Hein.
C'est le risque.
Donc à partir de maintenant, tu veux que je te dise un truc ou je vais te dire un truc.
Je vais te dire un truc, ouais. Je vais te dire un truc ou tu veux que je te dise. Les deux fonctionnent. Donc si Maxime dit ça et que vous allez le retrouver sur Twitter, le premier, il gagne un repas avec Maxime.
Et quant à l'analogie.
Au flunch de l'île d'Adam.
Oh non, on ira vers ici les Moulineaux.
Ah ouais, d'accord. Bah,
attends, ils vont quand même se déplacer si je paye.
À la cafétéria casino, donc vous allez passer un grand moment.
Quant à l'analogie Astérix-PSG, écoute, elle m'est venue comme ça, mais je trouve qu'en effet, elle est. D'ailleurs, on va en reparler, qu'elle est plutôt bien trouvée. C'est-à-dire
que. Alors que t'as pas vu le film.
Non.
Il faut quand même le dire.
Bah, j'ai pas vu le match non plus.
Faut quand même dire que Maxime n'a pas vu le film et qu'il le désingue. Mais Maxime, c'est comme ça. Il a envie de désinguer des gens.
Non, moi, j'aime beaucoup ce que fait Télérama, je suis souvent d'accord avec eux. Alors, j'ai même pas lu leur critique.
Oh le gauchiste. Oh là là.
Ah, c'est pour équilibrer. Non mais bon, de ce que j'ai entendu et ce qui ne m'étonnerait pas, surtout dans la logique des films d'Astérix, hormis celui de Chabat, c'est que oui, on va chercher d'abord le casting. C'est comme à la fin du Astérix où il y avait Tony Parker et
Zidane.
Compagnie. On met tout le monde, on se fout de ce qu'on leur fait dire, mais on les met dans le film. Donc ça marche très bien, tant mieux.
Oui, mais autant voir le film avant de le tuer, non?
Ouais, ou autant ne pas le voir, des fois. Parce que ça doit durer 2 heures, et tu sais, à mon âge, 2 heures, ça compte. Hein.
Ah bah ouais, vu ce qui te reste, autant en profiter, effectivement. Bah on vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast qui démarre très fort.
J'aime bien quand il dit ça, parce que...
Quoi?
Alors, d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est à cause de lui, dans les recherches Google...
Non, c'est pas à cause de moi.
Mais si, c'est à cause de toi. Il parle tout le temps de mon âge, et dans les recherches Google, dans les occurrences, très vite, il y a marqué Maxime Dupuis, Eurosport, âge. Ce qui est assez fantastique. Je pense que les gens pensent que j'ai 67 ans.
Oui, c'est vrai. Alors qu'on n'a pas de temps d'écart, en fait. Mais c'est aussi dans la tête, Maxime.
C'est là où j'allais en venir.
Et toi, t'es quand même un vieux. T'es un vieux dans un corps de quarantenaire, quand même. C'est vrai, Maxime. Alors que moi, je suis un ado dans un corps de trentenaire.
Non, mais en fait, moi, je me suis arrêté à 18 ans, en vrai.
Ouais, ouais, d'accord, ouais. C'est tout ce qui nous différencie, en fait, Maxime. Voilà, c'est tout. On a une émission, quand même, Maxime. Ouais. On a un petit peu parlé football. On rappelle juste que, donc, le FC Stream Team est à retrouver sur toutes les bonnes et mauvaises plateformes de podcast, que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de cette émission.
Ça, il dit comme moi, maintenant, il y a les bonnes et mauvaises plateformes.
C'est vrai.
C'est ça qui est terrible.
Que vous pouvez retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo sur le site Eurosport.fr, et vous verrez qu'en ce moment je dors pas beaucoup, voilà, parce que
d'ailleurs
je
ressemble
à Kung Fu Panda.
Pour info, voilà, il faut qu'on vous le dise, il va jouer dans le remake, mais le film un peu comme Le Roi Lion a été refait avec des vrais acteurs, bah lui il va jouer le panda.
Exactement, là je peux, hein. Oh, c'est chaud, ouais, c'est très très chaud, mais bon, ma fille ne dort pas, si tu m'écoutes d'ailleurs, hein, oublie pas de faire tes nuits. Et donc trois sujets aujourd'hui, Maxime, pour ce FC Stream Team. On démarra avec le PSG et on se demandera qui est le principal coupable de la situation dans laquelle se retrouve le PSG avant d'avoir le rendez-vous le plus important de sa saison face au Bayern Munich.
On parlera ensuite de la Ligue des Champions, la transition est toute faite, et pour parler des favoris. Est-ce qu'il y a vraiment des favoris dans cette Ligue des Champions 2022-2023? Ça paraît hyper ouvert.
Et on terminera par la Coupe du Monde des clubs. Ouais, la Coupe du Monde des clubs,
ouais,
parce déjà, qu'elle a lieu en ce moment.
Ouais, voilà, déjà, c'est bien de le dire.
Figurez-vous. Est-ce que vous vous foutez complètement de ce sujet? Alors, si oui, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on va justement se demander, mais pourquoi tout le monde s'en fout, en fait, de la Coupe du Monde des clubs? Voilà, ce seront les trois sujets de cette émission. Et bah, je t'en prie, Maxime.
Eh ben, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Là, on ne s'en fout pas du sujet, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue des Champions reprend ses droits mardi soir avec, évidemment, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, pardon, Bayern Munich au Parc des Princes. C'est déjà le match de la saison pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que l'étalon, il est en Ligue des Champions. Et on va se poser la question du marasme dans lequel est plongé le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année, depuis la reprise à post-Coupe du Monde. Le point d'orgue a été évidemment la défaite à Marseille mercredi en Coupe de France, une défaite 2-1 avec évidemment un écart monumental au niveau de l'implication, de l'engagement et du jeu. Victoire, première victoire de l'OM au Vélodrome depuis 11 ans et complètement méritée. Et dans l'état actuel des choses, et avec ce Paris Saint-Germain, ça ne devrait jamais arriver qu'une victoire de l'OM comme celle-là soit complètement méritée, parce que le PSG n'a fait que survivre sur ses acquis, on va dire, les petits coups de pied individuels et le talent de certains qu'on n'a pas beaucoup vu, Ramos qui a mis son but. On a décidé de chercher les coupables à cette situation, essayer de comprendre pourquoi le PSG aujourd'hui en est là. On a fait une typologie, on a pris 4 potentiels coupables, c'est-à-dire la direction du club, les joueurs, l'entraîneur et la Coupe du Monde. Et on va vous donner notre avis évidemment sur les 4 avec des pourcentages de responsabilité qu'on a fait de manière très 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 scientifique.
On va tout de suite donner peut-être nos pourcentages pour ceux qui écoutent le podcast. Donc pour Maxime, le principal coupable de ce fiasco-là, il nous met Christophe Galtier à 25%.
Non.
Non,
le principal coupable, c'est pas Christophe Galtier.
Non, mais Christophe Galtier à 25%, les joueurs 34%, la direction qui pour toi donc a la plus grande part dans cette situation-là, 40%, et la Coupe du Monde à 1%.
Voilà.
Pour moi, Christophe Galtier est responsable à 10%, les joueurs à 15%, la direction à 60%. Et la Coupe du Monde à 15%. Donc on va démarrer avec Christophe Galtier, Maxime. Pourquoi, selon toi, le coach est coupable, on va dire, un quart de responsabilité, 25%?
Alors pour moi, dans les tangibles, c'est-à-dire la direction, le club et les joueurs, Galtier est le moins coupable à mes yeux, c'est-à-dire des trois. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Encore une fois, 25%, c'est assez important comme pourcentage. Mais je pars du principe que... En fait, il est le dernier d'une longue lignée d'entraîneurs qui n'y arrivent pas au PSG. Et j'ai l'impression que le PSG est en train d'avoir à peu près tout essayé. On est parti d'Ancelotti, qui lui n'avait pas grand-chose à se reprocher, mais qui a été quand même un peu mis dehors. On est passé par Emery, on est passé par Blanc, on est passé par Tourelle, on est passé par Pochettino, c'est-à-dire des entraîneurs établis, des entraîneurs en devenir. Et tous se sont plantés. Et là, c'est l'été dernier, le PSG avait tenté quelque chose de différent en amenant Galtier, qui était plutôt intéressant. Parce qu'on a l'impression que quelqu'un qui allait remettre les compteurs à zéro, moins bling-bling, c'était voulu par la direction. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les paroles sont toujours là. Il a donné sa conférence de presse tout à l'heure, où il a parlé de l'engagement, il dit que c'était pas normal, qu'il n'y en ait pas plus. Mais à un moment, On se demande si y a des actes. D'ailleurs, c'est parable, c'est bien de le dire aux journalistes, de faire toujours le bon diagnostic, mais de ne jamais soigner le problème. Et le problème, on l'a vu, notamment cet hiver, c'est la fameuse rotation et l'implication de tout le monde. Donc, je pense qu'il a sa part de responsabilité quand même, même si ce n'est pas la plus grosse.
Moi, Galtier et les joueurs, je les mets à peu près au même niveau. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à vraiment leur en vouloir à eux en premier, parce que, comme tu l'as dit, les joueurs et les entraîneurs passent et finalement, le mal reste. Alors oui, ils ont une part de responsabilité, et notamment Christophe Galtier dans la bouillie collective, parce qu'il y a, voilà, y a peut-être d'autres choses à mettre en place, mais les options de Galtier me semblent finalement assez minces. Ne serait-ce que parce que devant, déjà, les options, moi je veux bien faire tourner devant, mais tu mets qui ? Et puis parce que finalement, la marge de manœuvre d'un coach au Paris Saint-Germain est hyper, hyper, hyper réduite. Malgré tout, oui, il a une part de responsabilité, parce que ce qu'on a vu à Marseille, c'est aussi sa responsabilité. Mais voilà, tu l'as dit, hein, Blanc, Emery, Tuchel, Pochettino ont échoué, donc je ne peux pas faire de Galtier le coupable numéro 1. Et puis, il faut se souvenir qu'au début de saison, on était tous plutôt emballés, que ça se passait très bien, qu'on se disait, un petit déclic, une lumière, ça roule en Ligue 1, ça roule pas mal. Donc, sans doute que les coupables sont à trouver ailleurs.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a deux Galtier, en fait. Il y a le Galtier de conférence de presse, qui est souvent bon dans le diagnostic et l'analyse, mais on se demande s'il n'arrête pas ça à la porte de l'amphithéâtre, en fait, simplement, quand il est avec les joueurs. Est-ce qu'il est capable de leur dire les choses ainsi, et moi j'avoue que j'ai un doute. Et quand,
est-ce que c'est possible ?
Ça devrait, c'est lui le boss.
Oui,
en fait, ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant PSG Reims où il n'ose pas sortir les joueurs pour de mauvaises raisons, alors que le PSG est à 10, il ne sort pas les 3 de devant pour renforcer le milieu de terrain. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il rend service à personne parce qu'il se tire une balle dans le pied en faisant ça. Et la balle dans le pied, ça a été spectaculaire. Ça a été l'égalisation de Balogun. Moi j'ai plus de mal avec le Imeki en attaque. À un moment, ça va, je veux dire. Quand on a Messi, Neymar et Mbappé, et qu'on a un budget, on va le dire, il est limité parce que le fair play financier, bon, ça reste à voir. J'ai du mal, voilà. Quand je vois, par exemple, l'état de la défense de Marseille mercredi, ce qui a fait Tudor avec beaucoup moins d'outils, je me dis qu'avec un peu d'imagination et d'un peu d'implication des autres, ça pourrait être différent.
On passe aux joueurs, Maxime. Ouais. Moi, les joueurs, finalement, j'ai dit, parce que moi, j'ai mis Galtier et les joueurs dans le même sac. C'est-à-dire qu'effectivement, alors oui, ils ont leur part de responsabilité, mais comment tu veux en vouloir à un Soler ou à un Ruiz qui ne joue pas du début de saison, que là on demande de revenir parce que certains sont absents, d'autres sont blessés, d'autres sont en méforme. Si tu veux, c'est trop compliqué pour ces joueurs-là qui ont l'habitude d'être des titulaires dans les clubs dans lesquels ils évoluaient avant. Il y a une confiance qui s'effrite, il n'y a pas de concurrence dans ce club-là. Donc pour moi, les joueurs aussi évidemment sont responsables, mais encore une fois, je ne vais pas les excuser, mais pour moi ça va au-delà de ça et on le verra après.
Moi là où je ne peux pas les excuser, c'est ce que dira toujours l'entraîneur, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et donc l'expression collective, elle est quand même d'eux. Et c'est pas parce que potentiellement un entraîneur ne donne pas toujours des bonnes directions, ce qui je pense n'est pas le cas de Galtier, qu'ils ne peuvent pas faire la part des choses et un peu dépasser la fonction. Le match de mercredi, il est pas loin d'être scandaleux pour les Parisiens. Et je pense que les supporters l'ont vécu comme ça, c'est-à-dire que c'est un match où ils se font bouffer dans tous les secteurs. Moi, j'ai des images qui me reviennent. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un ballon qui arrivait vers un Parisien, un peu dos au but, un Marseillais giclait. Ils étaient prévenus. Ils savaient que ça allait être comme ça. Et là, ça a été caricatural parce que ça a été ça quasiment, je ne vais pas dire 100% du temps, mais au moins 70 minutes du match. Et ils n'ont jamais su changer leur fusil d'épaule et donner ce qu'il fallait. Après, c'est là peut-être le lien avec la direction. C'est-à-dire que des dauphins, comme dirait Laurent Sierrat, on ne fait pas des requins. C'est-à-dire qu'ils ont été achetés pour faire du spectacle, pour être des bons joueurs techniques. Et comme l'a dit Galtier, c'était bien de l'entendre, la technique, c'est pas le problème. Le talent au PSG, c'est pas le problème. Mais à un moment, d'en arriver à faire un match comme ça et de ne pas changer un moment, parce qu'ils peuvent être surpris ou prendre la marée pendant 30 minutes, ok, c'est normal. On s'attendait un peu à ça, à ce que Marseille mette l'accent là-dessus. Mais à un moment dans le match qui ne soit pas capable de relever le niveau et de changer ça, c'est quand même un gros problème et il y a vraiment un problème de caractère dans cette équipe. Alors en effet, c'est aussi la faute des décisionnaires, c'est les gens qu'ils ont choisis qui ont sûrement mal analysé la situation.
Pour moi, le tort des joueurs, c'est le confort.
Ah oui.
Mais le confort, on leur a donné. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même allez, la plupart qui se contentent de ce confort-là et qui ne se font pas mal. Donc oui, il y a une part de responsabilité, voilà. Pour moi, le cœur du problème, et c'est pour ça que j'ai mis à 60% la direction. Alors, derrière la direction, il y a tout. Hein. Il y a directeur sportif, mais évidemment président et ADN finalement de ce club-là depuis qu'il est sous étendard qatari. Pour moi, le cœur du problème, c'est vraiment l'ADN de ce club, la direction. Il n'y a rien qui va. La façon dont il est construit déjà, c'est-à-dire vendre des maillots plutôt que de gagner des trophées prestigieux, construire autour de marques. La marque Messi, la marque Neymar, la marque Mbappé, plutôt que de construire une vraie équipe. Ça en fait un club sans banc, ça en fait un club sans concurrence, ça en fait un club parfois, et comme on l'a vu à Marseille, qui manque d'âme. Moi, j'aimerais des joueurs de caractère à un moment. J'aimerais des joueurs... Alors oui, tu vas peut-être pas t'offrir le maillot de Thiago Motta, mais en attendant, quand il était là... Et bah voilà, il faisait du bien et il mettait tout le monde dans le sens de la marche. C'est ces joueurs-là qui manquent, oui, des joueurs qui ne font pas vendre de maillots, mais des joueurs qui font gagner ces matchs-là. Comment tu peux passer en quelques années d'un milieu Verratti, Thiago Motta, Matuidi à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un milieu. Alors, le casting, il change à tous les matchs. En revanche, il rend personne incontournable. Et donc c'est à la fois la faute du directeur sportif, mais j'ai envie de dire d'abord et avant tout de ceux qui décident. Au Qatar, de mettre du bling bling.
Moi, j'ai mis un peu plus bas, j'ai mis 40% parce que j'estime que, voilà, encore une fois, il y a ceux qui sont sur le terrain qui pourraient faire mieux. Mais je suis pas loin de penser aujourd'hui que Mbappé et Dissoutier feraient mieux.
Oui, oui.
C'est-à-dire que
comme l'équipe de France en caricaturant.
Bah oui, voilà, ou l'Argentine de Messi, c'est-à-dire une équipe solide derrière qui a du caractère. Tu lui balances les ballons et ça marche. Alors, c'est évidemment caricatural dans les soutiers, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois. Le PSG, il a le talent, donc c'est pas la peine d'en chercher. Et pourtant, si on prend le discours de l'été 2022 de Nasser Al-Khelaïfi, c'était on arrête le bling-bling.
Oui, mais ça c'est.
Alors, non, mais sur les faits, sur le mercato, on peut pas dire qu'il ne l'ait pas fait. C'est bien moins bling-bling.
Ouais, mais bon, 137 millions d'euros pour Vitinha, ça... Fabien Ruiz,
ouais,
Soler et Kitike.
Mais ça, ils dépensent toujours de l'argent, ils dépensent en tout.
Non, mais t'imagines, 137 millions pour 4 mecs qui, jusqu'ici...
Pas... Oui, mais c'est pas un mercato Neymar Mbappé, tu vois. Tu sens que c'était un mercato qui était, en effet... Il y a peut-être une erreur de casting, tout simplement, et ça, c'est encore autre chose. Mais le problème, c'est que il y a deux choses. C'est-à-dire que, OK, c'est la phase 1. La phase 2, c'est, en gros, mais on va se dire, c'est de ne pas prolonger Messi, c'est de ne pas prolonger Ramos. Voilà, d'accepter de perdre un joueur qui coûte très cher et de réinvestir peut-être autrement l'argent dans de très bons joueurs européens, comme plein de très bons clubs européens le font, avec des joueurs qui ne sont pas au départ quand ils arrivent d'une envergure folle. Parce que, en fait, ça n'ira pas en s'arrangeant, les joueurs commencent à avoir de l'âge et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, il faut le dire, il y a qu'une brique qui n'a pas bougé depuis le début.
Bah oui.
C'est Nasser Al-Khelaïfi.
Bah oui.
Et force est de constater qu'à un moment. Quand vous êtes tout en haut de la pyramide, c'est aussi à vous d'incarner les échecs et les réussites et de payer les pots cassés s'il y en a. Alors là, vous allez me dire, on va très vite et vous avez raison. Le Bayern, c'est mardi soir.
C'est pas encore perdu.
Vendredi prochain, on dira qu'ils ont fait un match dingue et que c'est bien et que ça ne sera pas gagné non plus pour la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que la direction, elle a ce tort-là et on va en parler aussi, parce que moi je vais revenir là-dessus sur la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on peut mettre le paquet sur des éléments exogènes, simplement, c'est quand même eux les principaux responsables et je pense que la direction là-dedans ne peut pas être exemple de tout reproche.
Alors la Coupe du Monde pour moi a quand même une part, je l'ai mis à 15%, je crois, la Coupe du Monde a quand même une part dans ce qui arrive en ce moment même au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Je rappelle simplement que Kylian Mbappé est forfait, a priori, pour le match face au Bayern, que Messi, même si Galtier est plus optimiste, on ne sait pas dans quel état il sera. Messi et Mbappé sont deux des joueurs les plus utilisés pendant la Coupe du Monde, qui pendant un mois ont porté tout leur pays sur leurs épaules. Ce n'est pas seulement de la fatigue physique, c'est aussi ce qu'ils portaient pendant un mois. Et si tu rajoutes Neymar, c'est quand même quasiment les trois plus grosses stars de la Coupe du Monde qui avaient le plus de pression possible. Évidemment qu'ils finissent par le payer aujourd'hui, évidemment, ce calendrier ubuesque. Et de toute façon, il n'y a pas qu'à Paris. Regardez Manchester City, Liverpool, voilà, il n'y a pas que Paris qui souffre de ça. Mais évidemment que la Coupe du Monde a une part non ni marginale ni capitale dans ce qui arrive au Paris Saint-Germain, mais elle a sa part, il y a un décrochage évident. Et le nier, pour moi, c'est s'aveugler.
Le pourcent que j'ai mis, c'est de manière provocatrice pour dire qu'à un moment, si tu cherches les excuses à côté, c'est que tu te trompes. En 2012, en 2013, en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il n'y a pas de Coupe du Monde. Mmh. Pourtant, en février, ça coince bien souvent quand même. Donc on peut toujours dire ça, parce que le PSG peut toujours dire oui, mais c'est une année particulière, ça marchera mieux l'an prochain. Oui, comme tous les ans.
Mais tu peux pas dire que l'absence d'Mbappé aujourd'hui n'explique pas...
Hop, je suis sur un...
non mais...
Pourquoi Mbappé est absent aujourd'hui ?
T'as
raison,
oui,
grosse Coupe du Monde. Quand il est rentré, est-ce que quelqu'un lui a dit à un moment, peut-être que ce serait mieux que tu prennes 3 semaines ? Peut-être que ce serait mieux que tu joues pas contre Pays de Cassel ? Enfin, tu vas mettre un quintuplé, mais peut-être que tu vas le payer. Voilà. Est-ce que quelqu'un est capable de dire aux joueurs, on va vous faire sortir au bout de 60 minutes, parce qu'en plus vous avez la Coupe du Monde, vous avez une chance d'aller loin, donc autant vous... préserver, sachant que de toute manière, le gros rendez-vous, il est pour février, et que finalement, en octobre et en novembre, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de faire jouer d'autres joueurs qui vont permettre de les impliquer. Voilà. À un moment, quand tu fais pas tourner, tu vas dans un mur. Alors la Coupe du Monde, évidemment qu'elle a une conséquence, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on raconte que c'est la Coupe du Monde, le PSG se voile la face, et encore une fois, il y a la Coupe du Monde. Alors, le paradoxe, c'est une Coupe du Monde organisée au Qatar. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ce match en Arabie Saoudite à 10 millions, personne ne l'a obligé à le faire. Ils l'ont fait. Donc, à un moment, il faut choisir aussi. Quand tu fais jouer tes joueurs sur ces matchs-là, tu ne peux pas t'étonner que tu risques au moins d'avoir des pépins. Que le PSG n'ait pas de chance non plus, c'est une certitude. Parce que là, vraiment, Neymar qui se fait la cheville pendant la Coupe du Monde, Mbappé qui ne se blesse jamais, qui se blesse, et Messi qui a son pépin mercredi, c'est sûr qu'il y a ce côté aussi, bah, une manière de malchance, mais à un moment, c'est aussi une science du détail, et il faut arriver à réduire l'incertitude, et je pense que le PSG ne fait pas tout pour ça.
Ah non, mais ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude que le PSG ne fait pas tout pour ça, malgré tout. Et puis, au-delà du fait que Mbappé soit blessé, que la cheville Neymar siffle, ou que Messi soit incertain, au-delà du physique, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, parce que dans les autres clubs, les joueurs ne sont pas forcément blessés, mais tu as une décompression aussi mentale. Tout ce que tu as porté pendant un mois, et finalement que tu joues peu ou que tu joues beaucoup, ça pèse quand même sur tes épaules. Regardez les champions du monde français en 2018, ce qui s'est passé les mois suivants, c'était pour la plupart quand même une grande traversée du désert. Donc c'est finalement normal et sain qu'il y ait une énorme décompression après la Coupe du Monde. Pas de bol pour Paris, ils n'ont que des internationaux et en plus leurs deux meilleurs joueurs sont allés très très loin, donc fatalement pour moi il y a une part évidente de la Coupe du Monde dans ce qui arrive aujourd'hui, mais loin de moi j'ai pas envie de dédouaner non plus le Paris Saint-Germain, évidemment, tout ce que tu as dit, t'as raison, je veux pas les dédouaner, je veux simplement dire n'oublions pas quand même que c'est une saison de Coupe du Monde et n'oublions pas que ça a des conséquences réelles sur le niveau individuel et donc collectif, parce que le niveau collectif du Paris Saint-Germain dépend plus qu'ailleurs des individualités, bah du PSG.
Non mais c'est une évidence, et de toute façon ça fait le lien avec le deuxième sujet, année de Coupe du Monde, et c'est peut-être aussi ce qui explique cette espèce de nivellement des valeurs en Ligue des Champions. Les huitièmes de finale commencent mardi, donc avec Bayern PSG notamment. Déjà, le casting des huitièmes de finale est étonnant, parce qu'il n'y a plus qu'un club espagnol qui est le Real Madrid. Et on a l'impression, Martin, justement, pour ce deuxième sujet, que la Ligue des Champions 2022-2023 est ouverte comme jamais. Et honnêtement, moi, j'ai bien du mal, à l'instant T, je dis bien, même s'il y a les usual suspects, à donner un favori.
C'est très difficile de donner un favori. Qui sont les favoris, j'allais dire, naturels de la Ligue des Champions ? Si on regarde le casting aujourd'hui, c'est Real, Manchester City, Liverpool et le PSG, en gros. Si on enlève, oui, ça te fait sourire le PSG, je sais, mais bon, voilà, allons-y quand même là-dessus. Ce sont des équipes qui ont plus perdu en 2023, donc c'est-à-dire lors du dernier mois, que Naples, depuis toute la saison, ou que le Benfica. Alors ça ne dit pas tout, mais ce sont des équipes qui traversent quand même des énormes zones de turbulence qui n'épargnent pas les gros clubs. On peut même prendre le Bayern Munich qui, même si ça va un petit peu mieux, ont battu le Werder, démarre tout doucement sa reprise post-Coupe du Monde malgré le mois de coupure qu'il y a eu en Bundesliga. Donc c'est ce qu'on disait dans le premier sujet. Plus les clubs ont des individualités qui ont été
sollicitées.
Très sollicité mentalement et physiquement au Qatar, plus c'est compliqué de redémarrer. Et cette Ligue des Champions, elle reprend dans ce contexte-là. Or, aujourd'hui, les grands favoris à la victoire finale sont ceux qui avaient le plus de joueurs sollicités au Qatar. Donc c'est très 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 compliqué de déterminer un favori. Moi, sur ce que je vois depuis le début de saison, si j'ai un favori, c'est qui ? Ce serait Naples. Naples qui casse tout en Italie. Naples qui casse tout en Ligue des Champions, qui a notamment battu Liverpool. Mais est-ce qu'on peut faire Naples le favori à la Ligue des Champions ? C'est très compliqué parce qu'il faut aussi avoir un passé. La Ligue des Champions, c'est qu'elle ne s'offre pas à n'importe qui, même si le Napoli n'est pas n'importe qui. Mais au regard des palmarès du Real, de Liverpool et d'autres, voilà. Et puis, je mettrai aussi une petite limite à Naples, c'est que je pense que c'est presque plus important pour eux d'être champion d'Italie que d'être champion d'Europe cette année.
Ouais, et puis plus le titre est quasiment dans la poche. Moi, alors, comme pour le PSG, est-ce que la Coupe du Monde a rebattu les cartes ? Oui, en partie, mais elle a un peu bon dos, encore une fois, parce que, reprenez, ça nous paraît loin maintenant, mais le premier tour de la Ligue des Champions, Benfica a terminé devant le PSG. Mmh. Le Benfica a tenu tête au PSG. Naples était fort avant la Coupe du Monde. Liverpool était déjà largué avant la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y a peut-être un effet amplificateur de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, il n'a pas complètement changé la donne. Là où il a changé la donne, en revanche, c'est sûr que comme le PSG ou un club comme Manchester City se retrouve dans un moment assez charnière, assez particulier à jouer, parce que justement, il faut tout remettre en marche. Mais moi, je ne changerai pas tellement mon prono. Je pense que, évidemment, presque peut-être le plus dangereux pour un club comme City, justement, c'est ce qui vient là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater maintenant parce que ça ira mieux demain. Alors évidemment, ça ira mieux demain, c'est je rase gratis. Mais j'ai quand même l'impression que ça peut aller de mieux en mieux. Et ce qui est intéressant aussi sur cette édition de la Ligue des Champions, c'est quand même un fait qu'on a souligné à la fin du premier tour, c'est qu'il n'y a plus qu'un club espagnol. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un nivellement aussi de la Liga. Avant, si vous rajoutez l'Atlético et le Barça dans la liste des huitièmes de finalistes, vous n'avez pas la même tête et vous avez une compétition qui vous paraît un peu plus classique et un peu plus, j'allais dire, prestigieuse et relevée. Or, ce n'est pas le cas puisqu'ils ne sont plus là, ce qu'ils ne méritaient pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi cet effet qui fait qu'on se retrouve avec l'Eintracht de Francfort, par exemple. Je crois que c'est Francfort-Naples, d'ailleurs, en huitième.
Oui.
Ce n'est pas des huitièmes dont on a forcément l'habitude. Même le...
Mais qui disent quelque chose aussi.
Mais qui disent quelque chose des rapports forces. De force, exactement.
Mais est-ce qu'on avait déjà vu en huitième de finale de la Ligue des Champions des clubs, ouais, prestigieux, voire très prestigieux, partager une telle période un peu maussade, ouais, pour certains et pour d'autres carrément inquiétante, parce qu'on n'a pas parlé de l'AC Milan,
ouais,
qui pour le coup
qui est vraiment la rue là.
Et quasiment les pires clubs d'Europe depuis.
C'est pas la faute de l'Italie.
C'est pas la faute de l'Italie, non. Mais bon, il y a quand même eu Giroud, ouais, et enfin, ouais, il y a quand même des joueurs, ouais, qui ont joué la Coupe du Monde. L'AC Milan, Chelsea, Chelsea aussi qui est quand même dans une période noire. Donc même sans parler des quatre, City, Liverpool, Paris, le Bayern aussi, enfin voilà, on est quand même dans un moment très plat pour les grandes d'Europe, pour les meilleures équipes d'Europe. Et moi je pense, je n'exclus pas qu'il y ait une tête, alors peut-être que ça ira pas au bout, mais qu'il y ait, voilà, une sorte de redistribution des cartes. Peut-être que le vainqueur final, finalement, sera une équipe qui était attendue, mais peut-être que ça va nous offrir, à la manière du Final 8, par exemple, où il y avait le Covid qui avait complètement redistribué les cartes. Peut-être que là aussi, on aura des demi-finales un peu inédites.
Ouais, et puis c'est sûr que c'est un peu l'idée de l'année ou jamais à cause de ça, justement. Mmh. On avait eu Bruges aussi au premier tour, qui avait fait un super premier tour. Ils sont encore là maintenant. Donc
c'est ça. Je ne sais pas, le 8e.
Ouais. Et c'est là que ça va être intéressant, justement, c'est le côté de se dire. Est-ce qu'ils peuvent profiter de ce moment de creux chez les très gros ? Alors Bayern, PSG, les deux sont des très gros, donc c'est peut-être pas là, on le verra
Liverpool,
plus.
Liverpool, Real aussi.
Voilà, presque le désavantage, c'est ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait déjà ces affiches-là dès les huitièmes.
Oui, mais c'est ce qui te permettra d'avoir, quoi qu'il en soit, des invités surprises en
quart. Et peut-être qu'on aura une édition qui ressemblera, alors peut-être pas dans la folie évidemment, parce que je pense qu'on avait atteint un sommet incroyable, à l'édition 2019 avec l'Ajax, avec Tottenham en finale, voilà, avec des matchs un peu foufou. Au moins, ça ouvre le jeu. Et c'est vrai que moi, qui suis le premier à me plaindre depuis 10 ans d'avoir toujours les mêmes têtes ou globalement en demi-finale, bah là, d'avoir un peu de roulement, ça ferait pas de mal.
Et on va terminer par une compétition qui, elle, pour le coup, nous excite un tout petit peu, voilà, moins que la Ligue des Champions. Mais alors vraiment, ça se joue pas grand-chose. Hein. Ça se joue à un cheveu. Un cheveu de Maxime Dupuy. Donc, vous ne trouverez pas plus fin sur la planète Terre que les cheveux de Maxime Dupuy. Donc, c'est vous dire... Non, c'est pas vrai du tout. La Coupe du Monde des clubs, on s'en contrefiche, on s'en fout, on s'en bat les reins, même comme dit souvent Maxime Dupuy, si je peux reprendre une de tes expressions fétiches aussi. Voilà. Et alors, on a décidé de se demander pourquoi cette Coupe du Monde des clubs soulève aussi peu d'enthousiasme. Parce que finalement, si on s'en fie au cahier des charges, bah, elle regroupe les meilleurs clubs du monde.
Allez, malgré tout, voilà, c'est les meilleurs clubs sud-américains, asiatiques, européens. Donc, sur le papier, pourquoi pas. Mais alors, Maxime, pourquoi ça prend pas?
Parce que c'est une compétition déjà qui est très mal fagotée, tu l'as dit, ça regroupe les meilleurs clubs du monde. Enfin, oui, non, parce que les meilleurs clubs du monde, ils sont quasiment aujourd'hui, depuis 10 ans, exclusivement en Europe, qui est beaucoup plus riche, tout simplement. Et bah, les joueurs, alors, les joueurs brésiliens, les joueurs sud-américains venaient déjà en Europe, mais ils attendaient parfois un peu plus longtemps. Et notamment, tu m'en parlais tout à l'heure, le Barcelone Santos de 2011 avec Neymar versus Messi.
Le bon, Barça,
le Barça avait flingué le Santos, mais bon, au moins il y avait cette attente, il y avait quelque chose. Là aujourd'hui, on est sur 9 victoires de suite de l'Europe. L'Amérique du Sud n'existe pas. Plus tellement, elle ne, parfois ne se qualifie même plus en finale comme c'est cette fois le cas, puisque c'est Al Hilal qui va jouer la finale contre le Real Madrid. Donc autant dire que pour faire lever les foules, il y a mieux. Alors, cette Coupe du Monde des Clubs, elle a été créée en 2000. Souvenez-vous, la première édition, c'était au Brésil, c'était, je crois que c'était 8 équipes, et c'était la fameuse édition qui avait fait couler beaucoup d'encre parce que Manchester United avait renoncé à jouer la Cup. Alors qu'ils étaient, je crois, tenants, et en Angleterre, ça avait fait un barouf incroyable. Et en fait, la FIFA n'a pas réussi à maintenir un niveau d'intérêt assez important pour cette compétition, qui est déjà très mal placée dans le calendrier, parce que là, on a un match qui arrive juste avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. J'en parlerai après, mais la Coupe Intercontinentale avant, qui était juste un match à Tokyo, vers la fin, entre le champion d'Amérique du Sud et le champion d'Europe, se jouait un dimanche matin en décembre. Donc au milieu à peu près de rien du tout. Donc ça aidait à créer un peu l'événement. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est engoncé. Et Martin, on a des équipes, il n'y a pas de quart de finale pour tout le monde parce qu'il n'y a pas assez d'équipes.
Non, mais c'est...
L'Européen est qualifié directement en demi. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette compète.
Real Madrid à Hilal, ça m'excite à peu près autant que le match amical du PSG en Arabie Saoudite là, contre les copains de Cristiano Ronaldo. Donc c'est de dire mon degré d'intérêt pour cette compétition.
Et je pense que on verra les audiences télé. Oui. Je suis à peu près sûr que le match du PSG fera plus d'audience que celui-là.
De toute façon, moi, si j'étais au sommet du football mondial, et je pense que ce serait pas une mauvaise chose entre nous.
Tu te rases la tête.
Ce que je ferais, je supprimerais toutes ces compétitions et ces trophées qui sont décernés au bout de deux matchs. La Coupe du Monde des clubs. Mais il n'y a pas que ça. La Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Italie. À quoi servent ces compétitions qui ne font déjà, je le répète, que alourdir un calendrier qui déjà fragilise les joueurs? Je rappelle simplement qu'il y a quelques jours, il y a un immense joueur qui a pris sa retraite internationale, Raphaël Varane, et l'une des principales causes de cette retraite internationale qui nous a tous peinés, bah, c'est qu'il ne s'en sortait plus des cadences infernales. Donc supprimez-moi la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Italie, la Coupe du Monde des clubs, déjà on gagnera un peu, on gagnera un tout petit peu. À quoi servent ces compétitions? Elles servent à enquiller les buts, enquiller les titres, remplir des cartes de visite, genre j'ai une super coupe d'Espagne, j'ai gagné deux matchs, j'ai un titre en plus. Et du coup, pour les récompenses individuelles de fin d'année, les ballons d'or, ah ouais, mais attends, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, attends, il a gagné la super coupe d'Espagne, super, il a gagné deux matchs. Donc voilà, non mais moi, ces trucs-là, ça me sort par les yeux, je n'en peux plus. En plus, généralement, c'est particulièrement cette année, ça a été joué dans des pays voilà, à l'autre bout du monde. Donc voilà, arrêtons tout ça, arrêtons la mascarade. La Coupe du Monde des clubs, moi, j'ai appris qu'elle avait plus de 20 ans. Ouais. J'ai le souvenir effectivement de Santos face au FC Barcelone et vaguement les Tigresses parce qu'il y avait Gignac. C'était il y a deux ans, je crois. Donc voilà, si ça construit aucun souvenir, si ça ne suscite aucune émotion, si ça ne sert qu'à garnir des palmarès artificiellement...
Oui. Stop. Et ajoute aussi, alors c'est pas seulement la Coupe du Monde des clubs, c'est aussi ce que tu as dit, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, etc.
Oui.
Et c'est aussi, c'est du marketing, c'est qu'il donner. Il faut qu'on voit tout le temps le Real, qu'on voit tout le temps le Real Barça. D'ailleurs, je crois que c'est la Super Coupe d'Espagne.
Des champions, tout ça, moi,
il me semble que la Super Coupe d'Espagne est une compétition où il n'y a pas le même prix pour le diffuseur ou pour l'organisateur s'il y a le Real et le Barça.
Ouais.
Ce qui est délirant, voilà, voilà où on en est, parce qu'en fait, on veut toujours le même truc. C'est comme en tennis, si on n'a plus Djoko Nadal, on est perdu. Voilà. Donc là, c'est exactement ça. Oui, ce serait bien de le retirer, mais la FIFA ne le fera jamais, parce que la FIFA rêve d'étendre sa Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. Ce qui serait complètement débile.
Bien sûr, ouais.
Imagine le nombre de matchs qu'il faudrait jouer, parce que la FIFA a besoin d'exister. La FIFA, aujourd'hui, elle existe comment? Une fois tous les 4 ans, grâce à la Coupe du Monde. Alors, c'est une belle existence. Dans un monde idéal, elle s'en satisferait, parce qu'en plus, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon. Mais elle veut exister différemment et enquiquiner, en gros, l'UEFA et marcher un peu sur ses plates-bandes. Donc, c'est pour ça. Autre chose aussi, je trouve, qui ne sert pas la Coupe du Monde des clubs, c'est que moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu la Coupe Intercontinentale, c'était en 1990. C'était Milan Medellin. Et dans les buts de Medellin, il y avait un mec incroyable que je découvrais, que j'avais jamais vu parce qu'on voyait pas les matchs, qui sortait de sa surface de réparation, qui était capable de faire un coup du scorpion et qui était capable apparemment d'arrêter autant de tirs au but qu'il voulait. Il s'appelait René Guita. Voilà. Il y avait aussi ça. Il y avait ce sel de découvrir.
Et je trouve... aujourd'hui, ils sont tous en Europe.
Oui, et je trouve aussi que c'est bien le problème. Et que quand tu parles de Barcelone-Santos, alors évidemment, en 2011, on commence à avoir du foot partout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche qu'on avait l'impression de découvrir Neymar. C'est-à-dire que ah, ça y est, on va le voir face à Messi, ça va être génial, ça va donner quelque chose. Bon, encore une fois, le score avait été assez large pour le Barça, mais pas de chance, face à ce Barça, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais encore une fois, il y avait ça. Aujourd'hui, l'empilement de stars, il est d'un côté. Donc déjà, il n'y a aucun intérêt sportif, puisque voilà, le Real, a priori, va gagner aussi demain. Et en plus, ça fait, et en plus il faut le dire, j'ai souvenir de deux finales intercontinentales qui étaient très bien, c'est Sao Paulo-Barcelone avec Rai et Sao Paulo-Milan C l'année d'après, 3-2. Là, on a des matchs en plus qui n'ont à peu près aucun intérêt. Je ne me rappelle plus de la dernière finale qui serait potentiellement, j'allais dire, rentrée dans les jambes, mais c'est normal, c'est coincé au milieu d'un calendrier impossible. Je crois que le Real rejoue déjà en mercredi pour rattraper le coup. Donc voilà, c'est mal fagoté. Oui, à part avoir un badge, à part faire des belles photos sur Instagram et compagnie, ça ne sert pas à grand-chose.
Bon, et puis un titre en plus. C'est comme Mbappé quand ils ont gagné le match contre la sélection.
Un titre, c'est un titre. Et dernière chose, je le redis.
Super. Remettez la Coupe de la Ligue dans ce cas-là. Pour moi, la Coupe de la Ligue a plus d'intérêt que ces matchs en moins. Hein.
Regardez, là, c'est les journalistes qui parlent, mais quand vous allez lire la presse dans les mois qui viennent, si le Real a gagné, on ne marquera pas le champion du monde, on marquera le champion d'Europe. Ça dit aussi la valeur des deux compétitions.
On en restera là, Maxime, pour aujourd'hui. Ça te va? Tu t'es suffisamment énervé?
Bah, c'est toi qui étais un peu énervé là, sur le dernier sujet.
Ouais.
Moi aussi, quand même.
Ouais, mais tu sais, moi, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ça. Maintenant, je suis père, j'ai deux enfants, je vais avoir 40 ans. On va pas perdre son énergie sur des trucs comme ça, Maxime.
Bah, si, il faut, si t'as plus de combat. Et c'est
oui, mais moi, je veux pas finir comme toi dans quoi, 20 ans? Tu vois? Non, c'est pas possible, Maxime. Donc, on va prendre du recul avec tout ça. C'est que du football. Hein.
Alors, je vais arrêter de parler à partir de maintenant.
Ah!
Parce que je n'ai pas fauté, je pense.
Je pense que tu n'as pas fauté.
Oui, encore une fois, je le dis, c'est pas exprès.
Ouais,
mais je ne le dis pas pendant les émissions.
Tu dis pas quoi? C'est comme quand je joue au Ni Oui Ni Non avec mon fils, mais il est très nul.
Ah ouais. Ah, les enfants à Oui Ni Non, Ni Oui Ni Non, pardon, c'est ce qu'il y a.
Ah bah une relance, il dit oui, ouais, c'est terminé.
Si jamais il ne l'a pas dit, tu mets la deuxième relance et il le dit derrière.
Ah oui, ils sont nuls. C'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs.
C'est marrant quand même qu'ils soient... C'est vrai que tu vois l'éducation et tout ça. Non mais un enfant, un tout petit enfant, c'est...
Je vois pas, va pas à la fin de ta phrase parce que tu pourrais dérailler, Maxime. Merci à tous d'avoir suivi ce FC Stream Team en notre compagnie. On remercie Anne Tyrion Lannister, toujours là. Hein,
toujours là.
Sans dragon, mais aux manettes de l'émission.
Quentin Guichard qui était au visuel. Et on avait un invité aujourd'hui, c'est Léonard, c'est ça?
Léonard qui est stagiaire de
3e. En ce moment, c'est toute la fournée de stagiaire 3e.
Ouais.
Donc on fait des émissions en public toutes les semaines.
Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine.
Ouais.
Alors les amis, la semaine prochaine.
Elle veut pas que je le dise. Hein.
Si vous n'avez pas prévu d'écouter l'FC Stream, si vous vous dites, bon, ça va pas vouloir le coup, ils vont revenir sur le Bayern, c'était 4 jours avant, machin. Non. Les gars, je vous arrête tout de suite. Il y a une excellente raison d'écouter le FC Stream Team. Ça n'a rien à voir avec Neymar, Mbappé, Messi, pour une fois. Ça n'a rien à voir avec Marseille, Lyon et compagnie, et Manchester et compagnie. C'est que la semaine prochaine, qui est Maxime, le stagiaire de 3e?
Ma fille.
Oh là 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 là! Vous n'aurez pas un, mais deux Dupuis dans les FC Stream Team la semaine prochaine quand même. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc moi, je vais être en infériorité numérique. Je ne vais pas être bien.
Ah, je suis pas sûr que je sois du côté de son père.
Ah, peut-être c'est que je vais essayer de la rallier du côté.
Ah oui, ça t'aura pas de mal.
De mon côté à moi. Donc soyez présents la semaine prochaine pour le FC Stream Team pour Dupuis Junior, hein, qui sera donc avec nous. Pas sûr qu'elle intervienne beaucoup parce que je suis quand même un peu timide.
Ouais, c'est pas timide.
Nous, on la chambrera un petit peu.
Ah bah oui.
Ce serait rigolo.
Je lui ai promis que non, mais je le ferai.
Bah, bien sûr qu'on le fera. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro exceptionnel.
Moins que ça.
Ce sera pas la Stream Team, ce sera la Dupuis Team. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.
Salut.